Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Quelque chose s'oppose-t-il à la reconduction d'Angela Merkel en Allemagne? C'est en tout cas l'enjeu des élections générales qui se tiennent le 27 septembre dans la quatrième puissance économique du monde et première d'Europe. 20 ans après la chute du mur de Berlin et la réunification des partis Est et Ouest qui suivit, y a-t-il toujours deux Allemagnes? Et dans quelle mesure cette situation a-t-elle un impact sur la place de l'Allemagne dans la géopolitique mondiale? Le couple franco-allemand, une relation qui fait couler beaucoup d'encre, tantôt moteur de la construction européenne, tantôt frein. Où en est ce couple aujourd'hui alors que Berlin a souvent le regard tourné vers Moscou? Nos invités au téléphone depuis le sud de la France, Boris Grésillon, maître de conférence en géographie à l'université d'Aix-Marseille, auteur de l'Allemagne 20 ans après à la documentation française. Bonjour Boris Grésillon.
Bonjour.
En studio à Paris, Anne-Marie Le Glohanec, spécialiste de l'Allemagne, professeur à Sciences Po, auteur de Berlin et le monde aux éditions Autrement. Bonjour Anne-Marie Le Glohanec.
Bonjour.
Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, chercheur à l'IFRI et auteur de l'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur aux éditions Septentrion.
Bonjour. Co-directeur.
Co-directeur. Bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Et Pierre Verluise, docteur en géopolitique, chercheur à l'IRIS, auteur de 20 ans après la chute du mur, l'Europe recomposée aux éditions Choiseul et géopolitique de l'Europe aux éditions CEDES. Bonjour Pierre Verluise.
Bonjour.
Cet automne 2009, l'Allemagne fête donc les 20 ans de la chute du mur de Berlin. En 2010, elle célébrera le 20e anniversaire de sa réunification. C'était l'époque du chancelier Helmut Kohl. Alors que des élections générales donc se tiennent en Allemagne le 27 septembre prochain, élections dont on peut dire en passant qu'elles sont les plus importantes dans ce pays qui est un État fédéral, la question qui se pose est de savoir s'il y a aujourd'hui des obstacles à la reconduction de la chancelière Angela Merkel, très populaire au sein même de la population, qui si elle pouvait l'élire au suffrage direct voterait pour elle à 64%. Ce succès d'Angela Merkel auprès des Allemands est assez nouveau, alors que sur le plan international, la chancelière est ultra reconnue. Est-ce qu'il y a là paradoxe, Boris Grésillon ?
Non, moi je n'y vois pas de paradoxe. Il faut quand même souligner, parce que je pense que c'est important de le dire, que jamais un chancelier en exercice, n'a atteint une telle cote de popularité à une semaine des élections législatives. Qui plus est, un an après le déclenchement d'une crise mondiale que l'Allemagne subit comme les autres pays européens de plein fouet. Donc je pense que on a tout lieu de s'interroger sur cette performance quand même de la chancelière Angela Merkel, dont la reconduction, en tout cas au titre de chancelier, ne fait pas l'ombre d'un doute.
Hans Stark, vous n'êtes pas d'accord ?
Si, je suis d'accord sur le fait que Mme Merkel soit très populaire outre-Rhin, mais elle profite de ce qu'on appelle en Allemagne le bonus du chancelier, et d'autres de ses prédécesseurs en ont également profité à très vaste échelle. Helmut Schmidt était extrêmement populaire outre-Rhin, Konrad Adenauer quand même pendant les années 50, et même Helmut Kohl au moment de l'unification ont battu tous les records de popularité. Donc c'est plutôt un pays où les gens sont dans l'ensemble très contents de leur chancelier.
Anne-Marie Le Glohanec.
Il y a un paradoxe dans la mesure où la chancelière est extrêmement populaire. Et Hans Stark vient de rappeler que les chanceliers sont souvent populaires, mais elle est particulièrement populaire, notamment comparée à son prédécesseur en fin de parcours. Mais d'un autre côté, on n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer, du résultat des élections. C'est ça le paradoxe extraordinaire. C'est qu'on voit le bonus du parti de la chancelière se laminer au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections. Et on voit une sorte d'émiettement extraordinaire. Il faut parler de deux choses. La première, c'est le nombre d'indécis, c'est-à-dire que les pourcentages ne nous disent pas grand-chose actuellement sur les intentions de vote de ceux qui se décideront au dernier moment. C'était la même chose il y a 4 ans. À peu près un tiers d'indécis, c'est quand même considérable, même si le pourcentage s'est réduit avec le débat télévisé entre la chancelière et son challenger. Et puis la deuxième chose, c'est ce dont on va parler certainement maintenant, c'est-à-dire l'émiettement des partis, le fait que les partis populaires qui étaient dits populaires, qui sont toujours dits populaires, sont des partis sans peuple. Ils ont perdu depuis un certain nombre d'années, on pourrait dire depuis 20 ans, progressivement, structurellement, et leurs membres et leur électorat. Et donc ces deux grands partis, d'un côté le parti de la chancelière, chrétien-démocrate et de chrétiens sociaux, de CDU, de CSU, de l'autre côté le SPD, surtout le SPD, voient leur électorat s'échapper vers d'autres partis qui ont surgi dans les années 80, les Verts, dans les années 90, la gauche, qui progressivement s'est installée dans le paysage allemand en général et non pas seulement est-allemand. Donc on a des tas de coalitions possibles et on ne sait pas au fond quel gouvernement nous attend au lendemain des élections. Il pourra y avoir des négociations très longues et surtout on ne sait pas de quoi sera fait le prochain gouvernement.
Alors immédiatement, si je vous ai bien comprise, des partis dits institutionnels, les grands, le SPD, la CDU et émergence des petits partis, des plus petits partis. Une explication à cela, Anne-Marie Le Glonec ?
Oui, il y a une explication, c'est que comme partout ailleurs, il est de plus en plus difficile de pourvoir à des milieux sociaux, à des classes sociales, à des milieux sociaux qui deviennent de plus en plus divers, diversifiés, etc. Donc ça, c'est peut-être la première explication. La deuxième, il y a une tension entre d'un côté un centre. Et Angela Merkel, très clairement, on appelle à ce centre, elle s'appuie sur le centre. Elle l'a fait notamment au cours de grands congrès. Et d'un autre côté, une gauche, de plus en plus gauchisante d'ailleurs, un peu comme le schéma français, et qui mord sur la social-démocratie.
L'économie allemande, où en est l'Allemagne aujourd'hui sur le plan économique? On l'a dit en introduction, l'Allemagne est la quatrième puissance mondiale, première puissance européenne. Est-ce que ce constat cache des faiblesses? Et si oui, lesquelles, Boris Grésillon?
Ce constat cache en tout cas, je dirais, des disparités très fortes, peut-être plus que des faiblesses, puisque effectivement, bon, vous l'avez dit, l'Allemagne est quatrième puissance économique du monde, premier exportateur mondial. En tout cas entre 2004 et 2008, elle sera peut-être simplement dépassée en 2009 par la Chine. En tout cas, on peut dire qu'en termes de chiffres globaux, je ne parle même pas de l'évolution positive du PIB allemand depuis 20 ans, l'Allemagne se porte très bien. En revanche, ces chiffres globaux masquent mal des disparités régionales qui sont très importantes. Et j'y insiste parce que la réunification a eu un coût exorbitant. Et j'allais dire, c'est tout à l'honneur de l'Allemagne quand même d'avoir investi autant d'argent dans la remise à niveau économique et sociale des Länder est-allemands. Pour autant, les disparités en termes de salaire, de taux de chômage sont quand même encore très très fortes entre les Länder est-allemands et les Länder ouest-allemands, malgré tous les efforts qui ont été faits par le Bund. Pour ne vous donner qu'un seul chiffre aujourd'hui, parce que je le trouve assez parlant, on estime que le taux de chômage dans les 5 Länder est-allemands est encore près de 2 fois plus élevé que dans les Länder de l'Ouest.
Pierre Verluise.
Je partage tout à fait ce point de vue, mais j'ajouterais quand même que néanmoins, l'Allemagne est la seule véritable puissance commerciale de l'Union européenne. C'est le seul champion à l'export, ce qui est assez inquiétant dans une certaine mesure. Et il est vrai que quand on regarde à l'échelle nationale, le classement néanmoins de l'Allemagne sur un certain nombre de choses est assez surprenant. Et ici, c'est l'effet des Länder de l'Est qui viennent tirer vers le bas les moyennes à échelle nationale. En termes de PIB par habitant en SPA, par exemple, pour l'UE 27 Bassan, en 2008, l'Allemagne n'est qu'à 110 par rapport à une UE qui serait à 100, quand l'Irlande est à 139. La France à 107, c'est-à-dire moins bien que l'Allemagne. Productivité, même chose pour l'ex-UE 15 Bassan en 2007. L'Allemagne est seulement à 111, ce qui n'est pas beaucoup finalement. Quand on a un pays comme l'Irlande, qui est moins peuplé, qui est à 110, et la France à 117, cette fois-ci, est mieux placée que l'Allemagne, contrairement à ce qu'on s'imagine. Autrement dit, il est vrai que le rang de première ou principale puissance exportatrice de l'UE est amoindri par un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'impact de la réunification.
Et un constat qui n'est donc pas si sûr que ça, Anne-Marie Le Glouanec.
Il y a une espèce de paradoxe, c'est que d'un côté, on vit très bien en Allemagne, mieux qu'en France, mieux qu'en Italie, mieux qu'ailleurs, et d'un autre côté, on n'a pas seulement des disparités régionales, mais on a des disparités aussi de classe sociale. Et il y a un sous-prolétariat qui s'est formé au cours des dernières années, notamment avec les réformes qui avaient été introduites par le chancelier Schröder, un social-démocrate. Et cette espèce de sous-prolétariat, ce sont des générations de chômeurs. Les parents sont chômeurs, les enfants vont devenir chômeurs. Une espèce de désinsertion dans le réseau social. Et il y en a beaucoup été question. Il a été au centre des débats au cours des dernières années, en Allemagne même. Comment est-ce que l'Allemagne peut avoir supporté ce phénomène?
Est-ce qu'on peut dire, Hans Stark, que finalement la crise économico-financière qui a surgi il y a aujourd'hui un an, eh bien cette crise, elle rebat les cartes en Europe. Et au bénéfice de qui?
Mais d'abord, elle profite beaucoup aux chrétiens-démocrates et Mme Merkel, car là encore, c'est un paradoxe, alors qu'on aurait pu croire que face à la crise du capitalisme, entre guillemets, que les Allemands allaient se tourner vers la nouvelle gauche et voter massivement pour le SPD et les Linke, les deux à la fois. En réalité, ils sont choqués par ce qui se passe, ils sont inquiets, ils se tournent donc vers ceux qui les rassurent, et ceux qui les rassurent sont finalement ceux qui sont au pouvoir. Et qui gère, il est vrai, et c'est la raison pour laquelle Mme Merkel est aussi populaire, la crise économique et financière avec un certain succès. Et en réalité, les Allemands n'ont pas tellement mis à part le sous-prolétariat dont vient parler Marie, ce qui est vrai, mais dans l'ensemble, les Allemands n'ont pas finalement vraiment ressenti cette crise, ce qui est largement dû au fait que des négociations salariales ont été mises en route en 2007 avec des hausses de salaires qui sont devenues effectives au début de l'année 2009. Donc les Allemands ont finalement eu plus d'argent dans leur poche, entre guillemets, dans leur portefeuille. À cela, vous ajoutez un taux d'inflation zéro et des baisses du pétrole qui s'y ajoutent aussi. Donc finalement, le pouvoir d'achat des Allemands n'a pas baissé pendant cette crise et donc ils ont le sentiment que leur gouvernement a bien navigué. Alors sur le plan européen, oui, bien sûr, les Allemands tirent peut-être un peu mieux leur épingle du jeu parce qu'ils ont une structure économique qui est très largement basée sur les petites et les moyennes entreprises qui profitent de niches industrielles à l'échelle mondiale qui marchent malgré la crise. C'est-à-dire il y a toujours une demande, notamment sur le plan industriel, et c'est la raison pour laquelle aussi, lorsqu'il y aura une renaissance de l'économie à l'échelle internationale, les Allemands seront aux premières loges pour en profiter. C'est pas un pays qui s'appuie essentiellement sur des grands groupes industriels.
Contrairement à ce qu'on pense.
Contrairement à la France aussi. Et surtout, et ça c'est une deuxième différence, nous n'avons pas en Allemagne ces structures, enfin ces entreprises monostructurelles qui se trouvent dans certains endroits, dans certains petits villages, dans certaines petites villes, où il y a une entreprise qui ferme, comme c'est le cas en France, et que c'est un désastre pour toute une région. En Allemagne, c'est beaucoup plus éclaté, le paysage industriel, puisqu'il est beaucoup plus petit. Et lorsqu'il y a une entreprise qui ferme ses portes, ce qui est dramatique, bien sûr, il y en a une autre qui va rouvrir par ailleurs, et donc, grosso modo, ça s'absorbe.
Anne-Marie Le Gluenet.
Oui, juste pour donner une image et souligner ce que Hans Stark et Pierre Verluis ont dit tout à l'heure, l'Allemagne, c'est quand même le seul pays d'Europe à avoir une balance équilibrée avec la Russie, alors que tous les autres sont déficitaires.
Ça, on l'abordera dans la deuxième partie de l'émission, les relations de l'Allemagne avec la Russie. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. On poursuit sur cet aspect économique et ensuite j'aimerais en venir, parce que le temps passe, au bilan finalement de la réunification allemande. On évoquait les disparités régionales. Pierre Verluis.
Sur la place de l'Allemagne en Europe, quelque chose d'important à préciser, c'est que depuis la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne a été extrêmement active, allante en Europe centrale et orientale, notamment en termes de flux d'IDE, pendant que la France restait tétanisée jusqu'en 95 à peu de choses frais. Et les IDE allemands, les investissements directs à l'étranger, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, sont extrêmement importants. Donc il y a là une espèce de capitalisation de ce qui s'est construit progressivement, dans la durée, dans l'interconnaissance. On parle allemand en Europe centrale et orientale plus qu'on n'imagine. Tout ça, ça joue un rôle pour la posture de l'Allemagne aujourd'hui dans l'UE 27.
Mais là, on pourrait ajouter une phrase, c'est que ce qui n'est pas parfaitement vrai d'ailleurs, hein, mais c'est quelque chose qu'on constate, c'est-à-dire les investissements directs étrangers en Europe de l'Est, côté allemand, sont en effet très importants, mais depuis 89, et même avant, durant le temps du communisme, déjà la RFA était plus présente en Europe de l'Est que les autres, et on peut même remonter plus loin encore. Ce qui est intéressant, c'est de constater que cette prédominance allemande en Europe de l'Est, par rapport aux autres partenaires européens, s'effrite. C'est-à-dire elle ne se renforce pas. Elle est aujourd'hui infiniment moins forte qu'en 1992, 12, 91, 93, où, en effet, il n'y avait que l'Allemagne, un tout petit peu l'Autriche et peut-être l'Italie. Aujourd'hui, par exemple, les Français sont très présents en Pologne.
Parce que justement, à l'époque, ce que vous évoquiez à l'instant, c'était le lien avec l'Occident.
Et puis, il y avait la RDA qui avait créé quand même des contacts. Il y avait des contacts entre les Allemands de l'Est et les autres peuples d'Europe de l'Est, évidemment. Les Allemands de l'Est qui parlaient le russe, qui avaient pris l'habitude de travailler avec entre guillemets, là encore, de leurs frères. Est-européen. Donc évidemment, les Allemands, dans l'ensemble, en ont profité. Aujourd'hui, tout cela reste encore parfaitement valable, oui, mais ce n'est plus aussi massif qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin.
Pour en rester avec la question purement allemande, je me tourne vers vous, Boris Grésillon. L'Allemagne, aujourd'hui, n'est pas un pays parfaitement unifié.
Non, c'est vrai que ce qui est bien 20 ans après la chute du mur de Berlin, c'est qu'on a désormais, pour nous, le recul. de recul historique qui nous permet peut-être d'être un peu plus nuancés que directement après la chute du mur, où, si vous vous souvenez, d'aucuns pronostiquaient une réunification à l'horizon 10 ans. Enfin bon, en gros, tout devait se passer très vite et très bien, dans le meilleur des mondes possible. Or, ça ne s'est pas passé de cette façon-là, et j'allais dire, c'est tout à fait normal. On ne réunifie pas d'un coup de baguette magique deux pays qui se sont tournés le dos pendant 40 ans, absolument sur tous les plans, politique, social, culturel, système de valeurs, etc., etc. Moi, je trouve qu'à l'inverse, c'est une performance. Sa propre réunification en si peu de temps relève quand même de la performance. Et comme je le disais, l'État fédéral, depuis le début, n'a pas hésité à investir des sommes colossales pour tirer l'Allemagne de l'Est vers le haut. Alors après, on sait très bien que les mentalités évoluent un peu moins vite que les infrastructures. Je veux dire par là que c'est beaucoup plus facile de raccorder des réseaux de transport ou de construire des kilomètres d'autoroute en Allemagne de l'Est que de faire évoluer les mentalités. Cela dit, je pense quand même que les mentalités ont évolué et que, si vous voulez, il y a encore 10 ans, au moment du 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin, j'étais moi-même à Berlin, Anne-Marie Le Gloenec aussi, on avait quand même l'impression que le fossé, j'allais dire, identitaire entre l'Est et l'Ouest était toujours présent. Aujourd'hui, 20 ans après, je ne dirais plus la même chose. On est, je pense, quand même sur la route de l'apaisement.
Anne-Marie Le Gloenec.
Une petite nuance. Je pense qu'il ne faut pas quand même parler d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est. Enfin, si, bien sûr, il faut en parler, mais il y a aussi différents milieux, différentes régions. Et il y a des individus et des groupes sociaux en Allemagne de l'Est qui sont allemands et intégrés. Il y a des régions, notamment dans le Sud, qui font partie de l'économie allemande et qui font parfois sont plus performantes qu'à l'Ouest. Donc, il y a aussi toute cette variété à l'Est dont il faut tenir compte.
Non, bien sûr, c'est vrai que c'est plus une facilité de langage.
Hein. Hans Stark, vous voulez dire quelque chose?
Là encore, juste une phrase aussi. Les deux Allemagnes, entre guillemets, ont aussi beaucoup profité au niveau de leur unification interne des migrations qui ont eu lieu entre les différentes régions d'Allemagne. Et en réalité, aujourd'hui, les jeunes qualifiés des nouveaux Länder, comme on dit, des 5 nouveaux Länder, cherchent du travail pour l'essentiel dans la partie occidentale de l'Allemagne ou dans le sud, et donc amènent avec eux une mentalité qui n'est plus fortement saxonne ou est-allemande, mais qui devient tout simplement allemande tout court. Et au fur et à mesure que ça s'effectue, il y a un brassage. Et on ne peut plus tellement voir l'Allemagne avec deux blocs, une grande RFA, l'ex-RFA d'un côté et l'ancienne Allemagne de l'Est de l'autre. Aujourd'hui, tout ça, ça se mélange.
Les disparités démographiques, c'est un défi que va devoir relever l'Allemagne.
Oui, justement, si je peux me permettre d'intervenir, ce que dit Hans Stark est très important. Je poursuis son idée. Donc, par rapport au problème démographique énorme, je pense que l'Allemagne est en train de se remettre de la crise économique mondiale, et elle est en train malgré tout d'enregistrer quelques succès sur le plan de l'arrimage des nouveaux Länder, l'arrimage économique et social, même si des problèmes demeurent, j'allais dire, à l'ensemble du pays. Par contre, d'après moi, la véritable crise structurelle de ce pays, elle est d'ordre démographique, parce qu'il y a quand même à la fois 2 millions de personnes, c'est absolument énorme, hein, 2 millions de personnes est-allemand, essentiellement effectivement des jeunes et des qualifiés qui ont quitté l'Allemagne de l'Est, les nouveaux Länder, pour trouver du travail dans la partie occidentale. Donc en 20 ans, c'est absolument énorme. Déficit démographique énorme qui n'est pas compensé par un solde migratoire qui pourrait être positif. Et deuxième problème, on va peut-être en parler aussi, le problème du vieillissement. C'est-à-dire que la population allemande vieillit, premièrement, et deuxièmement, les femmes allemandes, si j'ose dire, ne font pas assez d'enfants, avec un taux de fécondité d'1,3. Autrement dit, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Donc ce défi démographique me semble, on n'en parle pas assez, mais il me semble, moi, autrement plus difficile à relever que le défi économique.
Je crois que vous serez d'accord, Pierre Verluis, très rapidement.
Tout à fait. Si on utilise les projections d'Eurostat, qui ne sont que des projections pour 2060, on s'aperçoit que la population de l'Allemagne pourrait baisser, alors que celle de la France serait dans une dynamique de croissance encore, ce qui rebattra une fois encore les cartes.
Géopolitique, le débat. Regard sur l'Allemagne à une semaine des élections générales qui pourrait voir la reconduction de la chancelière Angela Merkel. L'Allemagne, 20 ans après la chute du mur de Berlin, quelle place, quel défi sur l'échiquier mondial. Nous retrouvons nos invités Anne-Marie Le Gloenec, Pierre Verluis, Hans Stark et Boris Grésillon dans quelques instants. A tout de suite.